Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Jamais Israël n'a été gouverné par des dirigeants aussi hostiles à tout compromis territorial en faveur des Palestiniens. Et l'on ignore si le changement de président aux États-Unis modifiera la donne. Certes, l'annexion juridique est pour le moment suspendue, mais l'annexion de facto continue, comme le montre le reportage de Guilhem Deltey. En tout cas, l'objectif de la colonisation, qui contrevient au droit international, est ouvertement affiché et revendiqué. Mais le camp de la paix israélien n'a pas totalement disparu de la scène politique et des initiatives existent encore pour défendre le droit de tous à la justice et à l'égalité. C'est le sens de l'article que Karine Lamarche publie dans le numéro 48 de la revue Moyen-Orient. Ensuite, comme chaque samedi, nous lirons la presse régionale avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Nous sommes dans un village bédouin appelé Oum al-Khair, et juste au-dessus de nous, vous pouvez voir un château d'eau. Là où vous voyez les arbres, c'est la colonie de Carmel. Nous sommes dans les collines du sud d'Hébron, l'extrémité sud-est de la Cisjordanie.
Yehuda Shaul, l'un des dirigeants de l'organisation israélienne Brisons le silence, s'adressait le 27 octobre dernier à une délégation de diplomates occidentaux, européens en tête. Bonjour Guilhem Deltey.
Bonjour Eric.
Il s'agissait d'une visite en soutien à une communauté palestinienne menacée d'expulsion par Israël.
Oui, nous sommes là à l'extrémité la plus méridionale de la Cisjordanie, dans une région assez désertique, des collines arides, dans lesquelles vivent tout de même plusieurs centaines de Palestiniens, agriculteurs et éleveurs, dans un dénuement assez grand. Oum al-Khair est à l'entrée d'une zone appelée Masafariata et déclarée zone de tir par l'armée israélienne au début des années 1980. À ce titre, l'armée veut évacuer la population qui y vit, et au terme d'un long processus judiciaire, un dernier jugement de la Cour suprême est attendu dans les prochaines semaines ou les prochains mois.
Et dans le cas de Masafariata, un jugement de la Cour suprême est encore attendu, mais d'autres communautés palestiniennes font-elles face à une menace imminente d'expulsion ?
Oui, à la suite des accords d'Oslo, la Cisjordanie a été divisée en trois zones, A, B et C. La zone C est celle qui recouvre plus de 60% du territoire et elle est entièrement sous contrôle de l'armée israélienne. C'est là que vivent les colons israéliens, mais aussi quelques communautés palestiniennes, principalement bédouines, comme à Humsa al-Bakiya, dans la vallée du Jourdain, cette fois-ci tout au nord de la Cisjordanie. Là aussi, la zone où vit cette communauté a été déclarée zone de tir, et le 3 novembre, eh bien, l'armée a détruit environ 70 structures qui abritent des familles et du bétail. Plus de 70 personnes, dont 41 enfants, se sont retrouvés sans domicile. Interrogée par RFI, l'armée a invoqué des considérations opérationnelles. Mais pour Hagai Elad, directeur exécutif de B'Tselem, une organisation de défense des droits de l'homme dans les territoires occupés, l'argument sécuritaire est un prétexte.
La raison de ces efforts pour les expulser n'est pas qu'ils se trouvent dans une zone de tir. La raison de ces efforts est que nous voulons avoir aussi peu de Palestiniens que possible en zone C. Donc c'est pour servir un objectif politique israélien plus large. Et pour cela, nous avons un certain nombre d'excuses. Et l'une d'entre elles est la zone de tir.
Et selon les Nations Unies, Guilhem, il y a eu une augmentation cette année des destructions d'infrastructures palestiniennes en zone C.
Oui, l'ONU a recensé 689 destructions, un record depuis 2016, et elle dénonce une politique discriminatoire d'Israël à l'égard de ses populations palestiniennes. Mais 2020 a aussi été marqué par un record de construction dans les colonies israéliennes. Depuis qu'elle recense les annonces du gouvernement sur le sujet en 2012, l'organisation La Paix Maintenant n'a jamais dénombré autant de dossiers avancés en une seule année qu'en 2020. Et pour ces organisations, eh bien, si l'annexion juridique d'une partie de la Cisjordanie que Benjamin Netanyahou avait promise durant les récentes campagnes électorales a été écartée, il y a une politique du fait accompli qui ressemble à une annexion de facto, et les diplomates européens ont multiplié ces dernières semaines les visites de terrain, signe d'une inquiétude grandissante quant à la viabilité d'une solution à deux États.
Merci Guilhem Deltey, envoyé spécial permanent à Jérusalem. Et bonjour Karine Lamarche.
Bonjour Éric Bataillon.
Chargée de recherche au CNRS à l'Université de Nantes. Dans votre récent article publié dans le numéro 48 de la revue Moyen-Orient, vous évoquez les mobilisations israéliennes contre l'occupation des territoires palestiniens. Un timide renouveau, écrivez-vous. Quels sont les signes de ce renouveau, même timide ?
Alors tout d'abord, il faut mentionner évidemment les récentes manifestations contre Benjamin Netanyahou et son gouvernement. Même si elles ne concernent pas uniquement des Israéliens hostiles à l'occupation de gauche, etc., Ils sont évidemment présents dans ces cortèges et ils occupent une place non négligeable, donc ça c'est la première chose. Et puis de manière un petit peu plus large, depuis quelques années, on constate qu'il y a de nouveaux groupes militants qui se sont créés, de nouveaux collectifs, de nouveaux lieux de sociabilité aussi pour ces militants, rassemblés autour de différentes causes. Donc c'est loin d'être un mouvement massif, mais c'est néanmoins un mouvement qui continue d'être actif.
Pouvons-nous dire qu'à mesure que s'accroissait la mainmise israélienne sur la Cisjordanie, l'opinion publique approuvait l'action des gouvernements successifs ?
Aussi étonnant que cela puisse paraître, je pense qu'on peut dire surtout que la plupart des Israéliens sont tout simplement indifférents à la situation dans les territoires occupés et aussi au projet d'annexion d'une partie de la Cisjordanie. En fait, ce que veulent la plupart des Israéliens, c'est le statu quo, la tranquillité et évidemment la sécurité. Un récent sondage a montré que seuls 3,5% des Israéliens plaçaient l'annexion en haut de la liste de leurs priorités, contre 42% pour l'économie et 24% pour les questions de santé. Donc voilà, évidemment, une minorité d'Israéliens est très favorable à cette annexion, mais il y a aussi une petite minorité qui s'y oppose, activement, même si elle est fortement marginalisée.
Donc de fait, s'opposer à l'annexion, ce n'est pas un courant porteur aujourd'hui en Israël ?
C'est pas un courant porteur, effectivement. Ça rencontre pas forcément l'intérêt d'une part importante de la population, mais c'est un courant qui existe et qui est notamment présent dans les mobilisations récentes contre Netanyahou. On lit un certain nombre de slogans contre l'annexion et contre la politique menée dans les territoires occupés.
Alors, en lisant votre article, on a l'impression que le foyer principal de contestation s'est déplacé. Il était autrefois à Tel Aviv. Aujourd'hui, il serait à Jérusalem. Pourquoi ?
Alors en tout cas, on observe qu'il y a différentes mobilisations qui ont été menées ces dernières années à Jérusalem. Des mobilisations en lien avec des quartiers palestiniens donc de Jérusalem-Est, la majorité donc palestinienne et sous occupation, même sous annexion, puisque Jérusalem-Est a été annexée de fait. Des quartiers dans lesquels des résidents palestiniens ont appelé des Israéliens à se joindre à eux pour lutter contre le harcèlement policier, contre la colonisation dont ils sont victimes. Donc des liens ont été créés par ce biais. C'est une des choses qui explique que les mobilisations se sont un petit peu redynamisées, on va dire, à Jérusalem, et que en parallèle, à Tel Aviv, elles semblent s'être un petit peu taries, puisque pendant des années, il y a eu beaucoup de mouvements entre Tel Aviv et les territoires occupés, à destination notamment des manifestations contre la barrière du mur de séparation. Et ces dernières années, ces mobilisations se sont un peu essoufflées. Donc effectivement, Jérusalem occupe aujourd'hui une place peut-être plus importante dans la contestation.
Une contestation qui est finalement, par exemple, à Jérusalem, on note une coopération en fait entre des Palestiniens qui contestent évidemment l'occupation, mais aussi des Israéliens dans ces mêmes quartiers, notamment à Jérusalem-Est.
Oui, alors je peux donner un exemple, c'est le quartier d'Issaouia, qui est un quartier de Jérusalem-Est où il y a un très fort harcèlement policier, une colonisation importante, des démolitions de maisons récurrentes, enfin, voilà, une politique de harcèlement de l'État israélien sur les populations. Et dans ce quartier-là, pendant plusieurs mois, des Israéliens juifs donc se sont joints à la population, sont venus sur place pour essayer de limiter un petit peu justement ce harcèlement policier et ont créé des liens avec les résidents palestiniens. Donc ça, c'est un exemple de ce qui a pu se passer. D'autres quartiers aussi connaissent des manifestations ou des points de rencontre entre militants israéliens et palestiniens.
Comme le resto-bar associatif d'Imbala, par exemple.
Alors Imbala, pour le coup, c'est un lieu, enfin un restaurant, un bar associatif qui se situe à Jérusalem Ouest, où il n'y a pas forcément énormément de Palestiniens et de liens avec des Palestiniens, mais par contre c'est un lieu de sociabilité qui permet à des militants qui se sentent souvent menacés dans l'espace public israélien, à partir du moment où ils expriment publiquement des opinions divergentes, dissonantes, ça leur permet à ces militants-là de se sentir en sécurité et aussi de créer quelque chose, à la fois du point de vue de la sociabilité et du point de vue de l'organisation de la lutte collective contre l'occupation, contre l'oppression, etc.
Et quel est le poids de certaines associations comme Free Jérusalem, par exemple ?
Alors aujourd'hui, Free Jérusalem est un petit peu en stand-by, j'ai envie de dire, puisque la présence israélienne dans le quartier d'Issaouia, dont je parlais tout à l'heure, n'est plus pour l'instant d'actualité. Des liens existent encore, cette organisation, cette association continue d'organiser des choses de manière ponctuelle à Jérusalem-Ouest, et elle reste mobilisée dans la lutte contre l'occupation, mais voilà, plus de la même manière que ce qu'on a pu voir au courant de l'année 2019.
Alors, on a vu quel était le poids des États-Unis dans l'évolution actuelle de la politique, notamment du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Mais apparemment, une forme de résistance, elle aussi venue des États-Unis, serait à l'œuvre dans la diaspora. Pouvez-vous-nous la décrire, cette forme de résistance ?
Alors en tout cas, effectivement, il y a une contestation qui vient un peu plus spécifiquement de jeunes juifs issus de la diaspora, qui soit sont en visite en Israël de manière politisée, c'est-à-dire dans le but d'essayer d'avoir un regard politique sur la situation, et également des jeunes juifs installés en Israël, qui ont donc immigré là-bas, et qui s'engagent dans des associations, dans des organisations. Alors je pense par exemple à un groupe qui s'appelle All That's Left, qui peut être traduit par « ce qui reste », mais qui est un jeu de mots avec le mot « gauche ». Je pense aussi à une ONG qui s'appelle Arvat Amim, Solidarité des Nations, qui a pour but justement d'impliquer des juifs de la diaspora, et principalement nord-américaine, dans une forme de solidarité politique en Israël-Palestine.
Alors, on peut noter une nouveauté politique lors des dernières élections, c'est le succès de la liste arabe unifiée qui a recueilli 12% des voix et je crois 15 sièges à la Knesset. Est-ce que ces électeurs sont tous arabes ?
Alors, l'immense majorité des électeurs de la liste arabe unie est arabe, mais il y a effectivement une petite minorité de juifs qui ont également voté pour cette liste. Alors, ce sont principalement des militants de gauche, des personnes très opposées à la politique de leur gouvernement, notamment au projet d'annexion, des Israéliens qui ont pris leur distance d'une certaine manière avec le sionisme et qui souhaitent avant tout un État dont tous les citoyens seraient égaux. Donc, c'est difficile d'estimer leur nombre, évidemment, mais on pense qu'il aurait doublé entre les élections de 2019, avril et septembre, et cette dernière élection de mars 2020, et qui se situerait autour de 20 000 électeurs juifs, donc pour la liste arabe unie.
Karine Lamarche, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui l'annexion de la Cisjordanie ? Est-ce que ce sont ces manifestations contre la politique de Netanyahou, ou est-ce que c'est plus prosaïquement la pandémie actuelle ?
C'est très difficile de répondre à cette question. Je pense que tout simplement, actuellement, Netanyahou a d'autres chats à fouetter, j'ai envie de dire, que de s'occuper de l'annexion. C'était une annonce de campagne qui, par ailleurs, lui tient fortement à cœur, hein, mais qui est supplantée peut-être par une autre actualité actuellement. Donc c'est très difficile de savoir ce qu'il en fera. Tout ce qu'on peut dire, c'est que elle était censée entrer en vigueur en juillet dernier et que finalement, pas grand-chose a bougé à ce jour.
Il y a quelques jours, l'ambassadeur de France en Israël s'est déclaré sceptique sur une solution du conflit à deux États. L'annexion ne vous paraît-elle pas déjà validée aussi bien par les pays arabes de la péninsule arabique que par les occidentaux, Europe, États-Unis et France en tête ?
Ça dépend un petit peu ce qu'on entend par valider. C'est-à-dire que dans les faits, on a une situation qui est effectivement proche de l'annexion. Mais que par ailleurs, il y a quand même une différence fondamentale entre une reconnaissance officielle de cet état de fait et une situation qui n'existe pour l'instant que sur le terrain. Donc évidemment, si elle devait être confirmée, ça changerait beaucoup de choses à la fois pour les personnes sur place, les principaux concernés, à savoir les Palestiniens, et aussi pour la politique plus générale de cette région du monde, dans cette région du monde.
Merci Karine Lamarche.
Merci Eric Bataillon.
À lire votre article sur le timide renouveau des mobilisations israéliennes contre l'occupation, c'est dans le dernier numéro de la revue trimestrielle Moyen-Orient.
Orient Hebdo sur RFI.
Il est temps maintenant de lire la presse régionale. Bonjour Alexandre Bouchanti.
Oui, bonjour.
Correspondant au Caire. Et bonjour Michel Paul.
Bonjour.
Correspondant à Jérusalem. Michel Paul, la visite du secrétaire d'État américain donne lieu à quelques titres intéressants.
Et Haaretz, dans son éditorial, marque le ton d'emblée à propos de cette visite avec le titre de son éditorial « Les derniers jours de Pompeo ». Il s'agit probablement de la dernière visite de Mike Pompeo en tant que secrétaire d'État, souligne le grand journal d'opposition, qui ne cache pas son sentiment « Quel bonheur !» proclame l'auteur de cet article. Et incidemment, dans un autre article, Haaretz toujours révèle que Benjamin Netanyahou a décidé de reconnaître la victoire de Joe Biden lorsqu'il a compris qu'il n'y avait plus aucune chance que Donald Trump attaque l'Iran. Pour nombre de commentateurs, la visite du ministre américain dans une colonie de peuplement proche de Ramallah est un événement historique. Un ministre américain visite officiel pour la première fois en Judée-Samarie, souligne Mariv. Judée-Samarie, vous le savez, est le terme utilisé par les journaux ici, à l'exception généralement de Haaretz, pour désigner la Cisjordanie. Israel Hayom, le journal proche du Likoud, le parti de Netanyahou, se félicite de la double décision américaine. Les produits issus des territoires occupés pourront porter aux États-Unis la mention « Made in Israel » et aussi l'organisation de boycott BDS est désormais considérée aux USA comme antisémite.
Alexandre, selon des journaux arabes, l'autorité palestinienne serait prête à renormaliser ses relations avec les Émirats et le Bahreïn.
Oui, tout à fait. Des relations qui avaient d'ailleurs frisé la rupture au mois d'août quand les Émirats avaient annoncé la normalisation de leurs relations avec Israël. Alors l'autorité palestinienne avait rappelé son ambassadeur d'Abu Dhabi et en septembre, le même processus s'est répété avec le Bahreïn. Les journaux expliquent que ce revirement s'explique d'abord par la victoire de Joe Biden aux présidentielles américaines. En signe de bonne volonté, l'autorité palestinienne de Ramallah a repris ses relations avec Israël et bientôt avec les Émirats et le Bahreïn. L'autre raison est d'ordre économique. Les Émirats et dans une moindre mesure le Bahreïn sont parmi les plus grands bailleurs de fonds arabes de l'autorité palestinienne. Les Émirats, comme la plupart des pays du Golfe, accueillent aussi une grande diaspora palestinienne qui rapatrie chaque année des milliards de dollars. Le maintien de la tension risque à terme de nuire à cette diaspora essentielle pour la survie de milliers de familles palestiniennes.
Et puis Alexandre, le Soudan étudie la possibilité d'une base russe en mer Rouge.
Oui, c'est ce qu'a déclaré à la presse le chef d'état-major soudanais. Alors une base militaire russe en mer Rouge permettrait à Moscou de jeter l'ancre dans une région stratégique par laquelle passe le pétrole et une bonne partie du commerce entre l'Asie et l'Europe, expliquent des éditorialistes. Un projet qui remonte à la présidence d'Omar al-Bashir et qui semblait abandonné après le soulèvement populaire qui l'a destitué. Mais le projet semble être bien reparti puisque le président Poutine a ordonné à son ministre de la Défense d'installer des facilités logistiques pour accueillir 4 navires militaires au Soudan. Khartoum, qui cherche à normaliser ses relations avec l'Occident et notamment les États-Unis, pourrait utiliser ce projet de base russe comme moyen de pression pour accélérer le processus et obtenir de l'aide économique. Le projet de normalisation des relations avec Israël relève de la même logique, estiment des analystes.
Michel, en Israël, jeter la politique et elle revient au galop.
Et tout d'abord un sondage, Eric. L'écart entre le Likoud et le parti de droite nationaliste Yamina se réduit. Plus que 3 sièges qui les séparent. Le centre-gauche piétine. 52% des personnes interrogées dans le cadre de cette étude qui est publiée par Mariv pensent que Netanyahou est le principal responsable de la crise politique actuelle. Un chroniqueur parle de virus politique. Un autre estime qu'à en croire les décisions économiques, on est déjà en période préélectorale. D'ailleurs, le mot « élection » revient souvent dans la presse de ce week-end. Il est aussi beaucoup question des décisions que doit prendre le procureur général israélien pour ce qui est des enquêtes sur le Premier ministre et sur son procès. Mais les journaux s'étendent longuement sur 2 incidents. Une famille dont le fils pilote est mort dans un accident d'hélicoptère, conspué en raison de son hostilité à Netanyahou, leur voisin de Villa Césarée. Et puis aussi un manifestant qui compare le chef du gouvernement israélien à Hitler, ni plus ni moins.
Votre photo, Michel Paul, elle est dans la rubrique sport.
Oui, c'est la photo de Danny Avdija, le basketteur israélien sélectionné par les Wizards de Washington lors de la draft 2020 en NBA. L'élu, titre Yediot Aharonot, il est qualifié de meilleur basketteur israélien de tous les temps. Il a 19 ans. Et il recevra 7,5 millions de dollars sur 2 ans.
Bravo à lui. Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo, une émission réalisée par Mathias Golchani, à retrouver sur notre site www.rfi.fr. À demain donc, prenez soin de vous.